Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, ce sont Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui animent l'émission. Je suis Bernard et aujourd'hui je serai seul, mon partenaire Jean-Yves étant encore indisponible. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter la page Facebook de Palestine 13 ou de BDS Provence. Merci à Sidi qui assure la technique. Élections oblige, les grands médias ont complètement zappé la guerre à Gaza et leurs victimes quotidiennes. Des bandeaux signalaient en bas d'écran que l'armée israélienne a encore déplacé 1 million de personnes dans le sud de l'enclave pour pouvoir continuer à bombarder cette zone vidée. Encore une fois, de sa population. Le président de la République française se décide à agir. Lors d'un entretien téléphonique, il aurait exhorté Netanyahou à ne pas engager de nouvelles opérations à Khan Younes et Rafah. On imagine l'angoisse qui envahit le chef du gouvernement israélien lorsqu'il entend ça. La preuve de ce que pèse Macron dans ses exhortations, c'est que les bombardements ont eu lieu. Macron, exhorteur en chef. Un élément s'est imposé à cette revue de presse sonore, un reportage du journal Le Monde qui dresse le bilan des dégâts depuis le début des bombardements de Gaza. Le terme de génocide devient de plus en plus conforme à ce qui se passe. Parce que lorsque des bombes détruisent en priorité les bâtiments d'habitation, des écoles, des hôpitaux, des stations d'épuration, des bâtiments administratifs, des universités, c'est que les agresseurs veulent liquider et effacer l'ensemble des Gazaouis. Et l'Europe et la France regardent en silence les bras croisés. Où Macron décroche encore son téléphone pour dire à Netanyahou « C'est pas bien ce que tu fais à Gaza », avec l'effet zéro que nous constatons. Il s'agit bel et bien d'un génocide. Jusqu'où, jusqu'à quand, l'Europe restera-t-elle silencieuse? Pour parachever ce document, Béline Nabli, professeur de droit international des universités, rappelle la situation des dirigeants israéliens après la demande de mandat d'arrêt demandée par le procureur de la CPI. Nous entendrons aussi Georges Martin, un diplomate suisse, pas neutre du tout, faire le point sur le site de Antithèse de ce qu'il pense de la guerre à Gaza avec un titre lui aussi pas neutre du tout, Israël, un État fasciste avec des ministres néo-nazis. Ensuite, retour d'Alain Grèche, un des experts incontestés de la Palestine. Il intervient dans Grand Angle sur TV5 Monde sur le thème « La paix entre Israéliens et Palestiniens est-elle encore possible ?» Question sans réponse peut-être, mais une vérité mérite d'être répétée. Nous la répéterons sans jamais nous arrêter. Il s'agit d'une guerre coloniale dont Israël et ses alliés occidentaux veulent nous faire croire qu'elle serait une guerre des civilisations. Et nous finirons en musique avec le trio Joubran. Comment Israël anéantit Gaza, le journal Le Monde a qualifié les dégâts.
Bombardement aérien, combat au sol, démolition contrôlée à l'explosif. Depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène une guerre destructrice dans la bande de Gaza. En l'espace de 6 mois, au moins 88 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. C'est un peu plus d'un tiers de tous les bâtiments de la bande de Gaza. Ce chiffre est issu d'une analyse détaillée du Centre d'études satellitaires de l'ONU, vérifiée et enrichie par Le Monde. Fondé sur la comparaison d'images satellites de haute définition, ce travail révèle l'ampleur des destructions et leur caractère indiscriminé. Pour la première fois, Le Monde peut établir que plus de la moitié des bâtiments de santé, éducatifs et de culte ont été endommagés ou détruits depuis le 7 octobre. Voici la ville de Gaza, la zone la plus touchée de l'enclave depuis le 7 octobre. Dans les premières semaines de la guerre, elle a été lourdement bombardée par l'aviation israélienne. Et fin octobre, l'État hébreu a entamé son offensive au sol, entraînant des affrontements au sein de la ville. Dans cette zone, qui compte près de la moitié des bâtiments de santé de la bande de Gaza, de nombreux hôpitaux ont été endommagés. C'est le cas des complexes hospitaliers Al-Nasser, Al-Rantissi et l'hôpital ophtalmologique général. Sur les 8 bâtiments qui les composent, 2 ont été totalement détruits, un autre fortement endommagé et 4 légèrement touchés. Sur l'ensemble du territoire, 92 bâtiments hospitaliers ont été touchés, soit 61% d'entre eux. Plus au sud, l'armée israélienne n'est entrée qu'en décembre 2023 dans Khan Younes. Mais la seconde ville la plus peuplée de Gaza a également subi d'importants dégâts. Au nord de la ville se trouve l'école élémentaire Abu Ahmed. Avec ses 5 bâtiments, elle pouvait accueillir près de 580 élèves et une trentaine d'enseignants. Sur des images satellites de février 2024, un seul bâtiment restait debout. Au total, au moins 527 bâtiments d'écoles ou d'universités ont été endommagés ou détruits. C'est 61% de tout ce que compte l'enclave. En plus des bâtiments de santé ou éducatifs, les lieux de culte ont également été touchés dans l'ensemble de la bande de Gaza. Voici par exemple la mosquée El Emari, située à Jabalia. Fin octobre 2023, elle est totalement détruite. Et là encore, ce n'est pas la seule. 361 bâtiments religieux, soit 60% de ceux que nous avons identifiés dans la bande de Gaza, ont été endommagés ou détruits. Dans le détail, notre analyse révèle que plus d'une mosquée sur 4 a été rasée. Et ces catégories de bâtiments ne sont qu'une infime partie des destructions recensées. Magasins, marchés, administrations, terrains de jeu, stations de pompage des eaux usées et surtout, bâtiments résidentiels. Entre le 7 octobre 2023 et la fin février 2024, près de 88 000 bâtiments ont été touchés par la guerre. Dans le détail, l'analyse menée par l'ONU montre que 31 000 bâtiments ont été totalement détruits. 17 000 ont été sévèrement endommagés et 40 000 modérément endommagés. Le bilan humain s'élevait, lui, au 17 avril, à 33 900 morts, selon les autorités de Gaza administrées par le Hamas. Contactée, l'armée israélienne n'a pas répondu à nos questions.
Merci au journal Le Monde. Nous allons écouter le professeur de droit international des universités, Belyg Nabli. Il rappelle sur BFM Business le droit international à Netanyahou sous un titre « Cher Bibi » balancé par Macron à l'adresse de ce criminel de guerre.
Belyg Nabli, un séisme politique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans la séquence, c'est que cette fois-ci, les critiques et les contestations de la légitimité même de la Cour pénale internationale ne s'expriment plus du côté de dictature ou de régime en tous les cas contestable ou discutable, mais de démocratie. Au nom non pas du droit, mais d'intérêts liés à un allié stratégique qu'est Israël. Et on se retrouve du côté occidental, finalement, à contester ce qu'on a nous-mêmes créé. C'est-à-dire que le système international né après la Deuxième Guerre mondiale et qui a donné lieu à ce principe fondamental qui est la remise en cause de l'impunité, y compris des plus forts, qu'il s'agisse des États ou des dirigeants, eh bien, ce principe-là, il est sapé désormais par des puissances occidentales démocratiques. C'est ça qui est le plus, comment dire, troublant, je dirais, dans la séquence. Regardez la réaction de Joe Biden, président des États-Unis, lorsque a été officialisée la demande de la part du procureur de la CPI, la demande de délivrance de mandat contre Benjamin Netanyahou. Il a trouvé ça scandaleux. Il a trouvé ça scandaleux, non pas du point de vue juridique, mais suivant un prisme en fait politico-moral guidé à la fois par une représentation du monde en fait occidental ou centré et par des prismes aussi qu'on retrouve dans notre propre débat public français. On voit des gens qui n'ont aucune connaissance en droit international et qui vous disent que c'est impensable, que c'est inconcevable, qu'on ne peut pas parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide lorsqu'on leur pose la question de savoir pourquoi. En fait, la réponse n'est pas juridique, c'est une posture morale, historique, dont on comprend et saisit les ressorts. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Sauf que là, lorsque ces incriminations sont pensées par des juges, ces considérations politico-morales n'entrent pas en ligne de compte, en tous les cas pas en priorité, comprenez ? Et donc ça, c'est ça qui rend le débat compliqué plus que l'existence de deux juridictions. C'est pas si compliqué en réalité, ces incriminations, on peut les comprendre. C'est plutôt la manière dont on reçoit et perçoit ce qui se passe. Comment ça, un État démocratique qui se dit comme étant un État de droit, d'ailleurs on y reviendra, c'est un élément extrêmement important, se voit poursuivre pour les crimes les plus graves. Eh bien, oui, précisément, on retrouve là un principe fondamental qui est l'universalité du droit international, y compris du droit international pénal, ce qui signifie que, quelle que soit l'identité d'un criminel, il peut être poursuivi, qu'il soit dirigeant d'un État dictatorial ou d'une démocratie. Ce sont des critères, là, pour le coup, qui n'entrent pas en ligne de compte. Et c'est essentiel, effectivement, pour renforcer la légitimité de la Cour pénale internationale. Et pour tout vous dire, le procureur n'avait pratiquement pas le choix. Imaginez, en fait, le cas inverse. Imaginons qu'il n'ait rien fait, qu'il n'ait pas réagi ni au crime du Hamas, ni au crime internationaux commis par l'armée israélienne sur les ordres du gouvernement israélien. Enfin, dans quelle situation on serait retrouvé ? Là, on serait vraiment dans un système international guidé par forme d'impunité, déjà en général, et deuxièmement par la loi du plus fort. Donc, d'une certaine manière, il n'avait pas le choix, sauf à se retrouver dans une situation, encore une fois, qui aurait décrédibilisé définitivement la Cour pénale internationale et, d'une certaine manière, l'attente d'une partie de la communauté internationale, l'opinion publique internationale qui se tourne vers la justice internationale pour dire le droit, mais aussi pour compenser la loi du plus fort.
Oui. D'autant plus qu'en réalité, par rapport à l'offensive en tant que telle, et il n'y a pas vraiment de débat en Israël ou plus largement dans le contexte dans lequel il faut inscrire cette séquence, à savoir finalement un conflit colonial en vérité, puisqu'il y a une situation d'occupation et de colonisation. Il n'y a pas de débat de fond malheureusement en Israël sur ces points. Le vrai débat en Israël se porte sur la libération des otages comme priorité, ce qui n'arrive pas à s'imposer. Même ce point-là n'arrive pas à s'imposer dans l'agenda du gouvernement actuel. Bon. Et puis, pour revenir quand même à nos histoires de droit international, ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on se retrouve, côté israélien, pris dans un étau judiciaire international. C'est-à-dire, vous avez d'un côté une Cour internationale de justice qui vise l'État d'Israël en tant que tel et qui a pointé un risque plausible de génocide. Et vous avez de l'autre une Cour pénale internationale qui, elle, cible les dirigeants de cet État pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ça, c'est incroyable. C'est une situation historique exceptionnelle. D'autant plus, encore une fois, comme vous l'avez dit, qu'il s'agit d'un État qui se revendique comme démocratique. Or, précisément, il y a un élément qui passe un peu sous les radars. Vous savez, si le procureur Kahn est allé aussi loin d'une certaine manière et qu'il est sûr de son fou, pour reprendre votre expression, c'est qu'en réalité, il considère aussi que le principe de complémentarité qui aurait pu être invoqué côté israélien, à savoir que le système judiciaire israélien pourrait s'occuper, se charger de ces affaires-là, aurait pu donc neutraliser l'initiative du procureur. Eh bien, cette idée-là n'a pas convaincu, ou cette hypothèse n'a pas convaincu le procureur, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de volonté en Israël, ni du système judiciaire, ni du côté politique, pour finalement enclencher des poursuites réelles à l'encontre de ses dirigeants. Alors, d'où il pourrait tirer une telle idée dans le cadre d'un État, encore une fois, qui se revendique comme un État de droit démocratique? Eh bien, tout simplement parce que cet État est un État colonial qui applique des systèmes d'exception à l'endroit des Palestiniens et au bénéfice des soldats israéliens et de leurs dirigeants, naturellement, ce qui donne concrètement l'absence de véritables poursuites et de condamnations à leur encontre. Ça, c'est l'histoire de cet État, l'histoire de son système judiciaire qui devrait nourrir précisément une réflexion sur la nature du régime. Parce qu'on l'a entendu depuis le début, en tout cas personnellement, on l'a souvent opposé cet argument. Oui, mais Israël est une démocratie. Bien, je dirais même, en tant que démocratie, précisément, Israël devrait être à la hauteur de ses obligations internationales, plus qu'un autre État, en tout cas, qui ne serait pas démocratique. Or, c'est exactement l'inverse. On oppose cet argument d'autorité pour, d'une certaine manière, justifier une forme d'impunité, ce qui est complètement contradictoire. Et pourtant, c'est un élément, un raisonnement qui a vraiment cheminé dans le débat public franco-français. Hein, on nous dit « Israël est une démocratie ». Bien, précisément, puisque c'est une démocratie, pourquoi de telles violations systématiques du droit international? Pourquoi une telle défiance à l'égard du droit international? Parce que là aussi, on parle de cette séquence qui a commencé le 7 octobre, mais le conflit, encore une fois, parce que dans une histoire plus longue, et la défiance à l'égard du respect de certaines résolutions de l'ONU n'est pas nouvelle non plus. Et donc, vous voyez bien que cette situation est structurelle et souligne finalement la nature de l'État israélien. Et ça sera, de mon point de vue, le débat qui va suivre cette guerre, à savoir à qui a-t-on véritablement affaire pour finalement définir et trouver une solution politique à ce conflit.
Merci à Béli Gnabli. Place à Georges Martin, diplomate suisse, sur le site Antithèse. Israël, un État fasciste avec des ministres néo-nazis.
Donc vous le disiez, vous avez travaillé pendant plus d'une année à l'ambassade de Suisse à Tel Aviv. Quel est votre regard finalement sur cette guerre actuelle?
C'est effroyable, c'est pire qu'il y a 40 ans. C'est pire qu'il y a 40 ans, c'est pire qu'il y a 60. On a vraiment l'impression que Israël, comme l'a décrit un professeur juif, israélien, spécialiste de la Shoah et du nazisme. C'est un État qui a, il disait en février 2022, qui dérive vers un État fasciste.
Qui était cette histoire?
C'était Daniel Blattman, professeur à l'Université de Jérusalem, un des grands spécialistes actuels, jeune, hein, dans la quarantaine, de la Shoah et du nazisme, et qui disait « Israël, en 2022, me rappelle l'Allemagne des années 30 ». Il se radicalise et il va vers un État fasciste. Et il citait, pour ne pas faire bonne mesure, la présence, je ne sais plus combien il chiffrait ça à un tiers, de ministres néo-nazis. Néo-nazis.
Donc de ministres juifs néo-nazis.
Ministres dans le gouvernement israélien néo-nazis. Il y avait à l'époque, il y a toujours, des milices néo-nazis, des jeunes israéliens qui se réunissent et qui rappellent des choses qui glacent le sang. Enfin,
Ce qui est quand même un peu incongru.
Complètement, complètement. Vous savez, moi j'étais à l'époque, les 8 dernières années, j'étais recteur suisse d'une fondation. J'ai rajouté un petit chapitre dans mon livre, une fondation allemande. C'est une fondation qui donne régulièrement 60 millions d'euros.
Quel est le nom de cette fondation, pardon ?
Mercator. Alors, elle met à disposition de chercheurs, des chercheurs. Elle fait du bon travail. Il y a des chercheurs qui trouvent de l'argent et qui peuvent mener leurs recherches grâce à cette fondation. Et puis, une toute petite partie de la somme sert à donner des bourses à des étudiants post-grades pour favoriser leur accès à des organisations internationales. À l'époque, c'était à l'époque où, vous savez, après, au sortir de la guerre, la langue allemande n'était pas une langue bienvenue dans les organisations internationales. C'est pas une langue officielle des Nations Unies, par exemple. Donc, il fallait aider les jeunes Allemands. Entre-temps, ils parlent tous anglais aussi bien que l'allemand, il n'y a pas de souci. Mais c'est resté. Alors, on a toujours cette organisation, Mercator, et on sélectionne 20 Suisses, 20 Allemands et 5 Suisses. Alors, j'ai fait 8 ans ça, j'ai eu beaucoup de plaisir, et c'était merveilleux de voir ces Allemands avec ces Suisses. Il y avait une communauté qui se formait, et voilà. Et puis, quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai pris les positions qui sont les miennes, que j'ai partagées avec vous. Je critiquais l'Allemagne beaucoup, mais il n'y a pas eu de problème, ça a passé. Alors, la guerre en Israël, après quelques semaines, peut-être mois, mais peu, je reçois un téléphone et en 2 minutes, on me vide. On me chasse en disant que, d'après les juristes de Mercator Allemagne, j'étais antisémite et puisque j'étais antisémite, j'étais pénalement condamnable et que théoriquement, on pouvait m'arrêter si je mettais un pied sur le sol allemand. Alors, Mercator Suisse, parce qu'il y a Mercator Suisse, alors eux m'ont dit, nos juristes nous disent que vous n'êtes pas antisémite, mais vous avez quand même été loin. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais été beaucoup moins loin que les juges de la Cour internationale de justice et de la CPI. Beaucoup moins loin. Mais je me posais des questions sur les crimes de guerre, je disais officiellement, sur là où je suis actif sur le réseau social, que Israël avait été repris par ses démons, que Israël était devenu, je citais, parce qu'il faut faire très, il faut être très prudent, je citais Daniel Blattmann, et je me posais vraiment des questions, parce que je me rendais compte que finalement, l'Allemagne avait maintenant affaire avec deux démons qui lui remontaient dans la gorge, c'était le nazisme et la Shoah aussi, hein, le souvenir de la Shoah, qui les amène à coller à Israël et à soutenir tout ce qu'Israël fait, en fermant les yeux. Mais quand je leur disais que à Jérusalem, dans le gouvernement, il y avait des nazis, des néo-nazis. Alors pour l'Allemagne, c'est beaucoup. Alors on m'a vidé. Alors tout ça pour vous dire que je suis évidemment très pessimiste. Pourquoi ? Parce que j'ai connu Bibi Netanyahou lorsqu'il était ministre numéro 2, pardon, au ministère des Affaires étrangères. C'est un homme déjà totalement intransigeant. On avait préparé la visite de notre secrétaire d'État en Israël et sans nous dire, ils avaient rajouté un passage par le Golan, ce qui est tout à fait inadmissible parce que le Golan, c'est un territoire occupé qui appartenait à la Syrie. Alors il nous a emmenés au Golan parce qu'il voulait montrer à son collègue suisse la Méditerranée en disant, ben voilà, cher collègue, vous voyez pourquoi on ne rendra aucun centimètre carré de ce territoire, parce que c'est trop près de la mer, etc., etc. Et on ne peut pas permettre aux Syriens de nous dominer depuis les hauteurs du Golan. Donc, il avait déjà cette intransigeance, il avait déjà, idéologiquement, il était déjà ce qu'il était. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Rabin, avec en face de Rabin, un leader de l'opposition qui aspirait à le remplacer, qui était Bibi Netanyahou, qui distillait des discours de haine contre le Premier ministre Rabin. Ensuite, il arrive au pouvoir et il a fait un peu le vide autour de lui. Puis maintenant, il entraîne Israël dans son trip, il est en train de dévisser, il est en train de s'enfoncer, il entraîne tout son pays avec lui. L'objectif de Netanyahou, c'est d'avoir un Israël qui n'a plus de voisins arabes. Voilà.
Ce qui est compliqué quand on est entouré de pays arabes.
Absolument, absolument. Et Netanyahou a cru qu'il avait résolu définitivement la question palestinienne, grâce aussi aux accords d'Abraham, parce que, on le sait très bien, les leaders arabes, les gouvernements arabes n'aiment pas les Palestiniens. Ils n'ont jamais aimé. C'est les rues arabes qui se solidarisent avec les Palestiniens. Et les leaders ont utilisé parfois la question palestinienne à des fins de politique intérieure et peut-être même extérieure. Mais enfin, les leaders arabes, aujourd'hui, sont prêts à faire la paix. Hein. On a vu avec Abraham, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite était en bonne voie. MBS, le futur roi d'Arabie Saoudite, il veut faire des affaires, il veut créer sa nouvelle ville. Et les Palestiniens, c'est une épine dans le pied, ça les gêne profondément. Mais enfin, comme la rue réagit, ils sont obligés aussi, eux, de, de mettre sur la pédale douce et puis de pas trop se rapprocher d'Israël. Mais ce qui est sûr, c'est que Israël est un État, ça je le dis ouvertement aujourd'hui parce que c'est une évidence, est un État colon européen, occidental, au Moyen-Orient. Et ils ne veulent pas se fondre dans la réalité moyen-orientale. Leurs chanteurs chantent à l'Eurovision de la chanson, leurs footballeurs jouent avec l'UEFA, etc., etc. Donc, tant que c'est comme ça, ils ne seront jamais un État de la région qui pourrait faire, au fond, rendre pérenne son ancrage dans la région en signant des accords de paix et en faisant la paix, d'abord avec les Palestiniens, en leur offrant un État palestinien, et puis ensuite, tout naturellement, le reste se ferait. Mais ils ne veulent pas le faire, ils ont pris une autre voie, et cette autre voie me rend, au fond, dubitatif quant à terme, à long terme, à la survie de ce pays.
Mais c'est ça, parce que finalement, quel est le rationnel derrière cette voie-là?
Le rationnel, c'est que, vous savez, c'était le rationnel des Rhodésiens, en Rhodésie, dans l'actuel Zimbabwe. C'était le rationnel des Bours en Afrique du Sud. C'était cette volonté de créer une république à eux, qui exclut les autres. C'est pour ça que, clairement, Israël est un État d'apartheid. On ne peut pas l'appeler différemment. D'ailleurs, même maintenant, les cours de justice internationales le reconnaissent. Et ça me rend très, très pessimiste. Il faudrait... Et puis le problème aussi, c'est qu'en Israël, les Israéliens et les contacts que j'ai encore aujourd'hui avec des Israéliens qui sont de gauche, qui sont pour la paix, ils étaient pour la paix contre les territoires, ils sont contre Netanyahou, ils sont toujours d'ailleurs. Ce sont des gens qui ont de la peine à voir au-delà du 7 octobre. Le 7 octobre, pour eux, ça a été un tel traumatisme qu'ils n'arrivent pas à éprouver de la sympathie pour la souffrance palestinienne à Gaza. Et tant que c'est comme ça, ce sera très très compliqué.
Y a-t-il, à votre avis, des intérêts autour du canal Ben-Gourion dans cette guerre?
Du canal?
Canal Ben-Gourion. Ouais, c'est un projet de canal qui était sur la table pour relier la mer Rouge.
Oui, directement alors non, parce que Ben-Gourion, j'ai tout réagi, parce que finalement, ça me rappelle une citation qui est intéressante. C'était dans le livre, je crois, écrit par sa fille. Ben-Gourion aurait dit, et ça a été publié en 56, ou il aurait dit en 56 à sa fille, « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais la paix avec Israël parce qu'on leur a piqué leur territoire quand même. » Je veux dire, ça c'est Ben-Gourion, le père de l'État d'Israël. Oui, alors, moi quand j'étais en Israël, il y avait Shimon Peres, qui était, c'était un bon leader israélien, c'est quelqu'un qui... Il n'avait pas cette détestation des Palestiniens. Parce qu'il y a, il y a toute une partie des Israéliens, ceux qui descendent des Juifs qui étaient dans la région déjà, mais pas seulement, qui sont pas comme les nouveaux Israéliens, les Américano-Israéliens, qui eux viennent de New York, qui viennent des États-Unis très souvent, et qui sont extrêmement idéologiquement anti-arabes, anti-palestiniens, qui vont dans les colonies. Et c'est ces gens-là, au fond, qui empêchent de déployer. Mais oui, Shimon Peres voulait créer, il était convaincu, lui, qu'en créant un marché commun entre Palestiniens, Arabes et Israéliens, Palestiniens et Israéliens, ce serait le début, au fond, d'une vie ensemble, d'une vie en commun, et que ce serait peut-être le premier pas à faire. Alors oui, un canal, surtout que les eaux dans cette région-là, ce serait peut-être, dans un avenir proche, ça allait déjà peut-être, des causes de guerre aussi, parce que l'eau est rare. Et...
C'est ça. Parce que ce canal, en fait, le projet de ce canal, c'était de passer justement à travers la bande de Gaza. Et beaucoup pensent que, enfin en tout cas ceux qui développent cette théorie pensent que en éliminant les Gazaouis, en tout cas en s'appropriant la bande de Gaza,
ça va dans le sens de la construction. Vous avez raison. Ce qui est alors quand on parle de génocide, la Cour ne s'est pas prononcée là-dessus, mais elle a exprimé des craintes de tendances génocidaires, etc. Lorsqu'on lit, alors la Cour, vous savez, les juges, il en faut beaucoup hein, pour qu'ils s'expriment de cette façon sur ces questions-là. Je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai lu par contre, c'est les papiers internes du Likoud et les papiers qui circulent entre les ministres israéliens du gouvernement actuel. Et le fait de vider complètement le Gaza de ses habitants a été chiffré en Israël. Ça coûterait 18 milliards de dollars, etc. À donner à l'Égypte pour la construction de villes dans le Sinaï, enfin, etc., etc.
Mais pour placer les réfugiés, ouais.
Oui, mais des réfugiés qui resteraient. Enfin, ce ne seraient plus des réfugiés. C'est... Mais l'idée de vider complètement le territoire... Il est exprimé ouvertement par des politiciens israéliens aujourd'hui, par des membres du gouvernement. Alors, clairement, je pense que c'est ce que le gouvernement Netanyahou souhaite aujourd'hui. C'est de vider Gaza de ses habitants pour se réapproprier le territoire, effectivement. Et les colons sont prêts à revenir, enfin, on voit très bien. Et c'est pour ça que Al-Sisi, le chef de l'État égyptien, a dit « mais il est exclu que j'ouvre Rafah, parce qu'il n'y a plus de cause palestinienne ». Et ça, c'est clairement des entreprises qui visent des objectifs génocidaires. Génocidaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on les tue tous. Ça veut dire qu'on les vide, qu'on les force à partir. On détruit une communauté. Parce qu'il n'y aurait plus de Gazaouis une fois qu'elle a été répartie dans les banlieues du Caire et d'ailleurs, ou même en restant dans le Sinaï.
Alors, un autre phénomène quand même interpellant, c'est que les institutions internationales condamnent le gouvernement israélien, mais ce dernier, finalement, ne tient pas compte du tout, ou en tout cas ne semble ne pas tenir compte de tout ça, ou très loin, de manière très lointaine. Comment l'interpréter, enfin, est-ce que...
Ça a été la tendance de la plupart des gouvernements israéliens, et a fortiori aujourd'hui. Netanyahou contredit tous les jours Biden. Voilà. Je pense que le gouvernement israélien, et surtout Bibi Netanyahou, n'a absolument aucun état d'âme à faire ce qu'il veut, en s'en foutant de tout. Pour lui, ça n'est pas du tout important. D'ailleurs, il a dit tout le mépris qu'il éprouve pour cette cour. Il n'est pas membre, ils ne sont pas membres des statuts de Rome. Les États-Unis non plus. Mais les États-Unis ont applaudi lorsque Poutine a été... alors, il trouvait la cour géniale. Il la trouve un peu moins... C'est un peu moins génial aujourd'hui. Non, il y a un vrai problème de la part d'Israël. Vous savez, quand j'étais en Israël, j'avais beaucoup de contacts avec les Palestiniens. J'allais tout le temps à Gaza, j'allais à Hébron, dans les universités, etc., à Bethléem. Ils nous disaient tous, le problème avec les Israéliens, c'est qu'ils déclarent la guerre, la paix comme ils déclarent la guerre. Pour eux, la négociation, c'est de déclarer la paix. Je trouvais assez fort comme formule. Et les colons, maintenant, sans doute, le rythme s'est accéléré. Mais les colons, à l'époque, n'ont jamais été aussi nombreux et le phénomène ne s'est jamais aussi répandu que sous la gauche israélienne, sous Barak, sous des premiers ministres de gauche. Donc ça montre qu'en définitive, ça n'est pas la prérogative d'une droite ou de la droite de la droite ou du Likoud d'avoir une politique telle que celle-là. Ça a été quand même... ça restera tant que Israël ne sera pas un État du Moyen-Orient. Mais ce sera un État occidental au Moyen-Orient. Donc ils devront toujours avoir une politique qui forcera le pays à se radicaliser toujours plus. Et là maintenant, je crois qu'on atteint des limites de radicalisation énormes. Alors le leader d'un pays si radicalisé, c'est pas une décision d'une cour de justice sans police, sans troupes pour mettre en œuvre les décisions qui va lui faire peur. En revanche, ça risque de chambouler un peu son calendrier diplomatique parce que finalement, moi, à sa place, je me ferai du souci. Surtout quand il sera plus Premier ministre.
Et finalement, seuls peut-être les États-Unis pourraient faire pression sur Israël aujourd'hui pour...
Mais oui, mais comme toujours. Je me souviens, quand j'étais en Israël, avoir lu la thèse d'un étudiant juif américain qui faisait son master et qui avait... Le titre était, c'était pas ça, mais un peu comme le faux bon ami ou un truc pareil. Et lui disait au fond, le pire qui est arrivé à Israël, c'est d'avoir un ami comme les États-Unis. D'avoir la première puissance économique du monde, militaire, une puissance qui peut faire pratiquement ce qu'elle veut sur toute la planète, et qui n'a absolument aucun surmoi, aucune critique par rapport à Israël, qui acceptera toujours ce que son fils le plus indiscipliné, En plus, il lui a donné la carte de crédit et tout. Alors, et jamais les États-Unis n'oseront dire, d'ailleurs, même Biden le dit aujourd'hui, il a beaucoup de sympathie pour les Palestiniens, mais toutes les bombes qui tombent sur leur tête sont américaines. Biden a dit, on va jamais renoncer à aider Israël, quoi qu'il arrive, quoi que soient les décisions. Non, les États-Unis sont centrales. Tout le monde sait que si les États-Unis continuent leur politique, d'ailleurs, entre nous, je me pose maintenant la question, si les États-Unis avait pratiqué le même type de relations et de soutien avec l'Afrique blanche de l'Afrique du Sud, s'il n'y aurait pas toujours une République blanche en Afrique du Sud. Non, les États-Unis ont la clé du changement. Après la guerre durant laquelle j'étais en Israël, contre Saddam Hussein et les Scud et tout ça, Israël avait été prévenu d'entrer en guerre parce que finalement les Américains ont fait la guerre pour eux, très bien, heureusement. Mais à la fin, James Baker, le ministre du père Bush, a été très dur à l'égard d'Israël, en voulant les forcer à avaler quelques couleuvres, en leur disant « mais allez-y vers la négociation et vers la paix ». Et je pense qu'ils n'ont jamais… Après, il y a eu évidemment Oslo, Clinton et tout ça. Mais à l'époque, ils étaient très prêts de se mettre en route pour vers une solution, la paix contre les territoires. Voilà. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est les États-Unis qui ont la clé, c'est certain.
Merci à Georges Martin. La parole maintenant à Alain Grèche sur TV5 Monde. La paix entre Israéliens et Palestiniens est-elle encore possible ?
À Gaza, la situation alimentaire reste catastrophique pour près de 500 000 Palestiniens, c'est ce qu'affirme l'ONU. Et d'après l'UNRWA, l'agence en charge des réfugiés, 10 enfants perdus ou 2 jambes par jour en moyenne dans les bombardements de l'armée israélienne qui se poursuivent. Avec nous pour en parler, Alain Grèche, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, vous êtes journaliste, fondateur et directeur d'Orient 21, ancien rédacteur en chef au Monde Diplomatique. Votre nouveau livre a pour titre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeghidour. Bonsoir, bonsoir. Slimane. Alain Grèche, le 7 octobre, après les attaques meurtrières du Hamas qui ont sidéré Israël, Benjamin Netanyahou et son gouvernement avaient juré d'éradiquer le Hamas. Près de 9 mois après le 7 octobre, le Hamas a-t-il été éradiqué ?
Non, ce qui a été éradiqué, c'est la bande de Gaza, ce sont les Palestiniens, c'est les morts tous les mois. On disait tout à l'heure, qui aurait imaginé que 9 mois après, ça continuerait malgré les décisions du Conseil de sécurité, de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, tout continue. Et Israël est dans une impunité totale, grâce, il faut le dire, au soutien à la fois américain et européen.
Mais le Hamas a pris des coups. Oui, il s'en relevait pour continuer à peser dans le mouvement national palestinien.
Oui, je crois. Il faut d'abord dire que tous les observateurs sont d'accord là-dessus. Il n'a jamais été aussi populaire chez les Palestiniens et dans toute la région. Parce qu'il représente pour les Palestiniens un élément de la résistance et quelqu'un qui a fait bouger les lignes. Il faut se rappeler que le 6 octobre, plus personne ne parlait de la Palestine, que la colonisation se poursuivait, le blocus de Gaza se poursuivait. Là, ils ont remis la question palestinienne au centre du jeu. Alors, comment ils vont se réorganiser, je ne sais pas. Militairement, ils ont pris, c'est incontestablement, des coups. Mais on se rend compte que dès qu'Israël se retire de telle ou telle partie de la bande de Gaza, il y a une guérilla qui se poursuit. Donc, on a l'impression que c'est une guerre sans fin, comme a été l'occupation du sud du Liban, où il a fallu des années et des années pour qu'Israël accepte finalement de se retirer.
– Il y a d'autres mouvements que le Hamas à Gaza, le djihad islamique
notamment. – Il y a le djihad islamique, il y a une partie du Fatah qui travaille, si je peux dire, avec le Hamas, il y a le Front populaire de libération de la Palestine. Je veux dire, il n'y a pas de division chez les Palestiniens. Je veux dire, en tous les cas, dans l'idée de résister à une guerre qui est une guerre d'extermination menée par Israël, dont on voit les conséquences tous les jours.
Il y a des Israéliens, et pas seulement, qui disent, mais pourquoi le Hamas ne libère pas la centaine d'otages et tout s'arrêterait ?
Mais parce que un des sujets importants des négociations, c'est est-ce que après la libération des otages, Israël se retire de Gaza ? Et Israël refuse de donner des garanties qu'ils vont se retirer de Gaza. Donc, s'ils libèrent les otages, ils n'ont plus aucune carte en main, même si on peut penser que la prise d'otages, c'est un crime de guerre. Mais c'est évident qu'à ce moment, la situation permet à Israël... Je pense qu'un des objectifs israéliens, c'est, je l'ai dit, d'éradiquer la présence palestinienne, il y a des gens qui demandent la recolonisation, et il y a l'idée d'une occupation à long terme aujourd'hui. Il n'y a pas du tout la volonté d'Israël de se retirer de Gaza. C'est ce qui fait la différence avec les opérations qui avaient eu lieu dans les années
dans les précédents
2014,
conflits.
Etc.
Le 7 octobre et les 9 mois qui se sont écoulés constituent-ils, selon vous, un tournant majeur dans l'histoire de ce conflit israélo-palestinien ?
Il constitue un tournant, c'est encore difficile d'évaluer comment ça va se traduire. Ce que ce conflit a montré, c'est que tant qu'il y a une occupation, tant que les Palestiniens vivent cette occupation, il n'y aura pas de sécurité pour Israël. Mais il y a une autre chose qui me semble très importante dans ce conflit, qui n'est pas assez soulignée, c'est le fait que c'est le fossé qui s'est créé entre l'Occident et le reste du monde. Et notamment entre la France et les pays du Maghreb et les pays du Proche-Orient. Vous savez que lors des élections européennes, à Beyrouth, où votent un certain nombre de franco-libanais, qui sont pour l'essentiel des maronites, des bons bourgeois, etc. Vous savez quel est le parti qui arrive en tête ? La France insoumise. Il y a un rejet de la France qu'on n'a jamais connu dans la région. C'est-à-dire un rejet à cause de ses positions et qui, c'est-à-dire, c'est pas seulement les islamistes, c'est pas seulement les radicaux, c'est les libéraux, c'est les gens de gauche, etc., etc. Et ce fossé qu'on est en train de, que la position française a approfondi, il est vraiment très grave pour l'avenir de la France.
Position d'Emmanuel Macron, parce qu'à l'ONU, il y a eu des positions, des prises d'opposition, des votes plutôt clairs.
Il a fallu du temps.
Pour les Palestiniens.
Il a fallu du temps, mais rappelez-vous, Emmanuel Macron a dit Rafah, c'est une ligne rouge. Les Israéliens sont à Rafah. Et la France ne fait rien. Il y a des positions après avoir soutenu l'intervention israélienne et les massacres israéliens. Maintenant, on dit, ah non, on a tué peut-être un peu trop de monde. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est-à-dire, regardez ce qu'on fait avec la Russie en termes de sanctions. Il n'y a eu aucune sanction prise contre Israël. Et c'est évident qu'Israël n'arrêtera pas la guerre s'il n'y a pas des sanctions prises contre eux. Or, la France pourrait prendre des sanctions. L'Union européenne pourrait prendre des sanctions. Elles ne le font pas parce que, d'une certaine manière, ils donnent un aval à la politique israélienne à Gaza.
Slimane, on va s'intéresser cette fois à un élan, là encore une fois, qui frappe et qui interpelle celles et ceux qui défendent Israël et qui aussi mettent en avant le traumatisme subi par les Israéliens le 7 octobre. C'est de dire qu'il n'y a pas la même indignation dans le monde quand il s'agit des Ouïghours, des Rohingyas, des Ukrainiens, des femmes iraniennes, on pourrait citer énormément, ou de minorités ou de minorités opprimées. Comment l'expliquer en effet ?
Oui, effectivement, on entend souvent cet argument et les gens qui l'avancent disent puisqu'on ne s'intéresse pas autant aux Rohingyas ou bien aux Ouïghours, eh ben, on devrait se désintéresser aussi de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne proteste pas, on ne manifeste pas pour, je vais dire sur le plan universel, pour les femmes iraniennes ou pour les Rohingyas, parce que ces États sont déjà sous sanction. On ne manifeste pas dans toutes les capitales du monde pour les Ukrainiens parce que la Russie est sous sanction et les Ukrainiens sont armés par l'Occident. Dans le cas de la Palestine et d'Israël, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'une bonne partie des pays occidentaux arment Israël et dans, et tous les éditorialistes le disent, le soutien aux Palestiniens parmi les élites dirigeantes et dans les grands médias est moins prégnant que la version supposée israélienne. Ce qui fait que les gens manifestent pas pour la Palestine, mais surtout parce qu'il leur apparaît comme étant une sorte d'impunité inexplicable. Parce que Israël, c'est quoi ? C'est un sujet de droit international qui devrait donc être jugé normalement et ordinairement sur ses comportements et rien d'autre, sans aucune considération religieuse, ethnique ou historique. Or, le soutien qu'il y a dans certains pays européens, disons la moitié, parce que la moitié des États européens sont déjà dans une attitude un peu plus critique, fait que en Amérique du Sud, en Afrique, et dans le vaste monde, et y compris à l'intérieur des sociétés occidentales, les gens ne manifestent pas seulement pour les Palestiniens. Ils manifestent contre le fait que leur propre État fournisse des armes à un des co-belligérants, c'est-à-dire l'État
d'Israël. Notamment sur les campus américains, c'est ce qu'on a vu.
Oui, tout à fait.
De la part des étudiants.
Juste un mot, c'est-à-dire, aucun gouvernement occidental n'arme le gouvernement soudanais ou les milices soudanaises. Voilà. Je dis, donc, on n'a pas, il n'y a pas de prise. Sur Israël, nous les armons. C'est-à-dire, les États-Unis l'arment, les armes, l'Allemagne les armes, la France aussi. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'on pourrait faire quelque chose et qu'on ne fait pas. Bien sûr qu'il y a des crises sur lesquelles on ne peut pas toujours tout faire. Mais là où nous sommes, nous, occidentaux, impliqués, il faudrait faire quelque chose. Et c'est ça que, contre lequel la jeunesse, effectivement... Ce qui est intéressant de la jeunesse occidentale, c'est, je dirais, elle a une position très idéaliste. Parce qu'ils se battent avant tout sur le droit international. Ils se réclament du droit international, de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale. C'est pas un soutien avec les Palestiniens parce qu'ils sont palestiniens. C'est un soutien avec, en disant, le droit international, il faut l'appliquer. Et si on ne l'applique pas, on va rentrer dans une période de loi de la jungle à l'échelle internationale.
Quel regard portez-vous sur les manifestations massives en Israël qui demandent évidemment le retour des otages, la fin de la guerre et le départ de Benjamin Netanyahou? Ce ne sont pas des petites manifestations.
Non, la société israélienne est très divisée par rapport à Netanyahou. Ça s'est vu avant le 7 octobre, quand il y a eu toutes ces manifestations où les gens manifestaient pour défendre la Cour suprême et ses pouvoirs. En même temps, il faut reconnaître que ces manifestations n'ont rien à voir avec la Palestine. Bien sûr, on demande la libération des otages, mais en fait, la plupart des partis, y compris ceux d'opposition, ne sont pas contre la guerre d'extermination qui est menée à Gaza. C'est ça. Il y a 80% des Israéliens qui sont d'accord pour qu'on affame la population de Gaza. Donc, tant mieux, il y a un mouvement, d'opposition, il y a un bloc qu'on appelle bloc anticolonial qui fait le lien, c'est-à-dire c'est ça le problème, c'est de faire le lien entre la dérive autoritaire qu'il y a en Israël et la colonisation. Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre et ne peut pas être un peuple démocratique. Mmh.
Mais comment vous l'expliquez cela alors qu'il y a souvent eu un mouvement pacifique en Israël? C'est quoi, c'est l'onde de choc du 7 octobre?
Il y a plusieurs choses. Il y a l'onde de choc du 7 octobre, c'est évident que les Israéliens ont réalisé que le mythe qu'ils vivent en sécurité en Israël était faux. D'ailleurs, parce que c'est une sécurité qui n'est fondée que sur la force. Et qu'il n'y a pas un État qui peut fonder sa sécurité uniquement sur la force.
C'est un des reproches d'ailleurs fait à Benjamin Netanyahou des Israéliens, vous n'avez pas su nous protéger.
Oui, mais vous n'avez pas su nous protéger, ça peut être aussi taper encore plus fort, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu ambigu. Mais il y a quelque chose aussi, c'est que depuis 10 ans, finalement, les Israéliens, et je parle de la population, ont le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire l'occupation, qui se passe très bien, parce que Israël continue à avoir le soutien occidental...
– En Cisjordanie.
– De la Cisjordanie. Et la reconnaissance internationale. Donc, il n'y avait aucune raison pour qu'ils cèdent sur les territoires occupés. Il n'y aura pas de retrait israélien des territoires occupés et pas d'arrêt de la politique s'il n'y a pas des sanctions prises. Si les Israéliens, et je pense pas seulement les gouvernements, les citoyens israéliens payent le prix. En Afrique du Sud, la population blanche sud-africaine a payé le prix de l'apartheid. Il y a eu des sanctions. Il y a eu un mouvement BDS de sanctions qui, à l'époque, était soutenu par tout le monde. Personne ne disait c'est un mouvement anti-blanc, il haïssent les blancs, etc. Ça, c'est ça qui a permis de faire bouger. Si les Israéliens ont l'impression qu'ils peuvent avoir l'occupation et vivre comme s'il n'y avait pas d'occupation, effectivement, on est dans une impasse.
Alors, le fait nouveau, ce sont aussi ces pays qui reconnaissent l'État de Palestine avant même d'avoir abouti à un processus de paix comme on en a connu avec Oslo, feu les accords d'Oslo. Slimane, dernière en date, c'est l'Arménie. En quoi cette reconnaissance est-elle symbolique et quels sont les liens qu'il y a entre les Arméniens et les Palestiniens?
Alors, l'Arménie reconnaît l'État de Palestine. Elle rejoint ainsi la grande majorité des pays du monde, 146, qui reconnaissent l'État de Palestine, parmi eux la Suède, l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande et d'autres pays, mais aussi parce que l'Arménie sait ce que c'est que perdre des territoires. Et enfin, il y a dans les pays arabes du Proche-Orient, il y a de très anciennes communautés arméniennes, notamment des communautés arméniennes en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, et en Palestine, qui sont composés de descendants des survivants du génocide de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Par exemple, chez les Palestiniens, la communauté arménienne de Palestine, notamment à Jérusalem-Est, a donné beaucoup d'intellectuels arméniens, des ambassadeurs. L'ancien ambassadeur de la Palestine à Londres, il s'appelle Hassassian, je crois, était arménien. Et un des négociateurs pour les accords d'Oslo, que je connais, qui est décédé, Albert Agazarian, était un des négociateurs palestiniens avec un véritable patriotisme palestinien. Les Arméniens de tous les pays arabes du Moyen-Orient, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'à l'Irak, sont parfaitement intégrés dans la vie arabe sont arabisés et participent à la vie de leur pays de tous les jours.
Alors,
et les Palestiniens, ceux du quartier arménien de Jérusalem, subissent actuellement des assauts de l'administration issue de la droite dure pour essayer de grignoter un peu leur quartier. Et au moment où nous parlons, il y a une très grande tension entre cette administration municipale et la communauté arménienne.
Quelques mots à l'engrège, que change la reconnaissance d'un État de Palestine qui, dans les faits, n'existe pas ?
Écoutez, c'est un geste symbolique, surtout. S'il ne s'accompagne de rien d'autre, c'est symbolique. Mais
qu'est-ce que ça peut changer ?
Concrètement, rien s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises. Simplement, ça veut dire, je dirais, ça change quelque chose parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'on a oublié la Palestine. Que, y compris le gouvernement français, ne fait plus rien. On fait comme si, bon, maintenant, il allait avoir la paix. Vous savez que Netanyahou est intervenu à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, juste avant le 7 octobre. Il a montré une grande carte de la région. Israël avait absorbé la Palestine et ça ne choquait personne. Et personne ne disait, on dit aujourd'hui, on ne peut pas négocier avec le Hamas parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas Israël. Mais je dis, Israël ne reconnaît pas les Palestiniens. Donc, on était dans cette situation. Mais il faut aller au-delà. C'est évident que ça ne suffira pas.
Merci à Alain Grèche et nous terminerons, avant d'écouter le trio Bougran, Slimane Selig sur une information rare diffusée par TV5 Monde. Israël reconnaît-il un enlisement à Gaza ?
Et direction le Proche-Orient maintenant, avec une question. L'armée israélienne est-elle en train de s'enliser dans la bande de Gaza? 9 mois après l'attaque du 7 octobre, le Hamas est toujours là. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reconnaissait que les combats étaient difficiles, ce qui explique sans doute la prise de parole du chef d'état-major israélien ces dernières heures. Écoutez.
Dans la brigade de Rafah, d'après ce que nous avons vu de nos propres yeux, je n'invente pas de chiffres. Plus de 900 terroristes, y compris des commandants, comme au moins un commandant de bataillon, et de nombreux agents ont été tués.
Et notre éditorialiste Slimane Zeghi, dont nous a rejoint. Bonsoir Slimane.
Bonsoir.
D'abord quelques mots, comment interpréter cette prise de parole ?
C'est de la com'. D'ailleurs, le même état-major a déclaré il y a quelques mois que l'armée israélienne avait tué dans le nord de Gaza 15 000 militants ou combattants du Hamas. Ensuite, on a parlé de 10 000. Bref, toujours est-il que le Hamas lui-même contre-communique d'une certaine manière. Il ne se passe pas un jour depuis à peu près 3 semaines sans que le Hamas ne diffuse une vidéo où on voit ces snipers prenant pour cible des patrouilles israéliennes ou faisant exploser des chars ou des transports de troupes.
Alors l'armée israélienne est-elle en train de s'enliser, notamment à Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne ?
Mais écoutez, on va prendre une revue américaine extrêmement influente qui s'appelle Foreign Affairs, qui est proche du Parti démocrate, mais où travaillent de grands spécialistes de la stratégie. Regardez le titre. Le Hamas est en train de gagner. Pourquoi la stratégie défaillante d'Israël a rendu plus forts ses ennemis? En fait, ce qui se passe, c'est à la fois tragique, mais pas du tout étonnant. Aucune puissance n'a remporté une bataille dans une guerre symétrique. Depuis la guerre du Vietnam. Israël a lâché plus de bombes sur la petite bande de Gaza que les Alliés en ont lancé sur Hambourg ou sur Dresde ou les Allemands sur Londres. Après 40 000 morts, 70 000 blessés, 80% des habitations détruites, l'armée israélienne perd encore des hommes chaque jour, sans parler de la détérioration de son image internationale et de la fracture interne dans la société israélienne.
Merci Slimane pour ce décryptage.
Je vous propose d'écouter un document très important. J'ai retrouvé une archive issue de l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, dans laquelle Alain Bayou interpelle Alain Finkielkraut sur une question toujours d'hyperactualité aujourd'hui, celle de la responsabilité des Juifs de France à rendre impossible la critique d'Israël sans que ceux qui émettent ces critiques ne se fassent immédiatement traiter d'antisémites.
Vous avez contribué à mettre en place, non. Vous avez beau le dire, vous avez contribué à mettre en place ce système général qui empoisonne entièrement la polémique sur ces questions et qui est l'identification du signifiant et du noble mot juif à la politique israélienne et à l'État d'Israël. Vous avez étatisé le mot juif, vous l'avez collé à l'État d'Israël et maintenant vous plaignez du fait que critiquer l'État d'Israël soit critiquer les juifs.
–
Voilà, merci de votre attention et à bientôt.